Eh bien, bonjour à tous et à toutes de loin. Un grand baiser virtuel. Quand on n'a que l'amour, je pense que Eddie va être surpris par le contenu de la méditation. Mais au final, effectivement, vous comprendrez pourquoi j'ai choisi ce titre-là. La méditation de ce matin m'a été inspirée par le calendrier qui m'offre l'occasion de vous parler d'un sujet qui me tient à cœur. Demain, nous serons le 8 mars, qui, comme tout le monde le sait, est la journée internationale des droits des femmes. Une journée bien utile et nécessaire pour s'intéresser à la condition des femmes dans le monde et pour lutter contre les inégalités et les injustices dont elles font l'objet. Cette journée a déjà une longue histoire, car elle trouve son origine au début des années 1910. Mais c'est en 1977, il y a quand même déjà longtemps aussi, que l'ONU a arrêté la date du 8 mars pour célébrer chaque année la Journée internationale des droits des femmes. Que de chemin déjà parcouru, surtout dans nos pays, mais que de chemin encore à parcourir. Et chaque 8 mars a son thème particulier. Et le thème de cette année-ci est celui-ci. Je suis de la génération égalité, levez-vous pour les droits des femmes. Je suis déjà debout, donc je ne peux plus me lever. Je suis de la génération égalité. Levez-vous pour les droits des femmes. On croirait entendre parler Jésus. Vous ne le croyez peut-être pas. Eh bien, je vous invite alors à relire les évangiles et à voir comment Jésus traite et considère les femmes qui y croisent sa route et qui partagent sa vie. Que de femmes, d'ailleurs, dans les évangiles et dans la vie de Jésus. Jésus traite ces femmes en égales. Il les rétablit dans leur dignité et il les rend actrices de leur vie. Il tisse ainsi avec elles une relation de confiance mutuelle, une relation d'amour. Alors, quoi de plus normal, me direz-vous ? Oui, sauf qu'à cette époque-là, le comportement de Jésus envers ces femmes est tout bonnement révolutionnaire. Dans le monde où vient Jésus, il y a 2000 ans, un monde dominé par l'homme, la femme a un statut de second rang. Elle est un sujet subalterne, considéré comme une propriété qui est transférée du père au mari. D'un point de vue légal et juridique, sa parole n'a pas valeur de témoignage. Elle doit être confirmée par au moins 3 hommes. D'un point de vue religieux, elle est priée de se taire et sa présence n'entre pas en ligne de compte. Dans les synagogues, les archives ne recensent que les mâles et il faut 10 hommes pour atteindre le quorum qui permet le début du service. D'ailleurs, tant dans la synagogue qu'au temple, l'endroit qui est réservé aux femmes, à l'écart, marque bien son statut de subordination. Dans la synagogue, elles sont reléguées dans une section grillagée et l'étude de la Torah leur est interdite. Au temple, elles sont dans une cour à part qui se trouve 15 marches plus bas. Sans voix dans la société, la femme est donc reléguée à la sphère privée domestique, où sa valeur dépendra surtout de sa capacité à enfanter des garçons qui perpétueront ainsi la descendance des mâles. Pour ne pas être marginalisée, la femme a donc intérêt à rester à sa place, une place qui lui est assignée par les hommes. C'est sur cet horizon patriarcal, hautement machiste et sexiste, que se dessine la figure de Jésus. Jésus qui vient ébranler ce schéma d'injustice et qui vient ouvrir de nouvelles perspectives d'égalité et de dignité humaine. Mais en réalité, ces perspectives ne sont pas nouvelles. Elles remontent au plan originel de Dieu. Elles remontent au projet divin de création. Au tout début de la Bible, on lit « Dieu dit, faisons les humains à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa les humains à son image. Il les créa à l'image de Dieu. hommes et femmes, il les créa. Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se dit que ce projet divin a quasi avorté dans l'œuf. Oui, Jésus vient rétablir l'humanité, toute l'humanité, hommes et femmes, dans sa dignité et son égalité originelle. Toute sa vie, d'ailleurs, est une déclaration éloquente des droits humains, que cet humain soit mâle ou femelle. Jésus, incarnation vivante du visage et de la volonté de Dieu, n'est pas du tout différentialiste ou sexiste, comme l'était le monde de son époque, comme l'est trop souvent encore le monde aujourd'hui, et chose totalement incompréhensible, comme l'est le christianisme. Que des discriminations sexistes existent dans le monde chrétien est une sévère anomalie, une profonde injustice qui est due non au Christ, mais au christianisme en son pouvoir et ses institutions. Je me permets d'insister, la manière dont Jésus a traité et considéré les femmes était tout bonnement révolutionnaire. Ça en a bousculé et énervé plus d'un d'ailleurs. Mais il y a pire encore, la liberté que prend Jésus d'accueillir des femmes comme disciples, inconcevable. Et la liberté de ces femmes qui rejoignent la communauté de Jésus, inacceptable. Parlons-en d'ailleurs de ces femmes disciples. Leur présence dans la communauté de Jésus est mentionnée par les quatre évangiles canoniques, dont celui de Luc. Luc, au chapitre 8, les versets 1 à 3. Or, par la suite, Jésus faisait route à travers villes et villages. Il proclamait et annonçait la bonne nouvelle du règne de Dieu. Les 12 étaient avec lui, et aussi des femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais et de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chouza, intendant d'Hérode. Suzanne et beaucoup d'autres qui les aidaient de leur bien. Voici donc la communauté de Jésus, des hommes et des femmes qui vivent avec lui, qui l'accompagnent, qui le suivent dans son itinéraire en tant que disciples. Cette présence de femmes disciples témoigne d'une rupture radicale de Jésus avec la tradition et la culture de son temps. Car à cette époque-là, que des femmes suivent un rabbin, un maître, était sans précédent. En fait, qu'un rabbin enseigne à des femmes était inenvisageable. L'instruction religieuse était réservée aux hommes. Quant aux femmes, eh bien, on ne leur enseignait que ce qu'elles ne pouvaient pas faire, les interdits. De plus, un rabbin n'adressait pas la parole à une femme en public. Voici d'ailleurs quelques perles que je vous laisse apprécier. Rabbi Eliezer disait « Quiconque enseigne la Torah à sa fille, c'est comme s'il lui avait enseigné des choses sales. » Allez comprendre. Et le commentaire de cette affirmation ajoute « Plutôt brûler les paroles de la Torah que de les enseigner aux femmes. » Pour cette raison, parler avec les femmes était considéré comme, je cite, « négliger les paroles de la Torah et courir vers l'enfer ». Rien que ça. Il faut donc bien comprendre à quel point le comportement révolutionnaire de Jésus était subversif. Subversif et libérateur. Ô combien libérateur et salutaire pour toutes ces femmes. Et on comprend pourquoi ces femmes se sont attachées à lui, pourquoi elles lui ont donné leur confiance et pourquoi elles l'ont tant aimé. Je peux vous assurer que si j'avais été femme au temps de Jésus, je ne l'aurais pas lâché d'une semelle. La nouveauté surprenante d'une telle vue communautaire, mixte et égalitaire, va provoquer de violentes réactions. La présence de ces femmes, l'attitude de Jésus à leur égard, fait très certainement partie du scandale Jésus et des éléments à charge qui l'ont conduit à la croix. Et précisément, allons-y à la croix. À la croix, ou à l'exception du disciple bien-aimé dont nous parle le quatrième évangile, seules les femmes sont présentes. Les autres disciples hommes ont pris la fuite et ont abandonné Jésus. Mais les femmes, elles sont là, auprès de Jésus, au moment de sa passion. Les évangiles attestent qu'elles sont présentes à la croix et rappellent que ces femmes ont suivi et servi, et qu'elles ont suivi Jésus depuis la Galilée, c'est-à-dire tout au long de son ministère. Et les verbes utilisés sont intéressants, car le verbe « suivre » et le verbe « servir », eh bien en fait, c'est le propre d'un disciple de Jésus, qui lui-même d'ailleurs est venu non pour être servi, mais pour servir. Des femmes fidèles donc, persévérantes, aimantes, présentes auprès de Jésus de bout en bout. Et leur présence ininterrompue fait d'ailleurs de ces femmes de précieux témoins. Et de fait, ici encore, les quatre évangiles s'accordent pour reconnaître que les femmes ont été les témoins de la mort, de la mise au tombeau et de la résurrection de Jésus, et qu'elles ont été les premières annonciatrices envoyées par Jésus ressuscité pour apporter cette bonne nouvelle aux autres. Oui, c'est précisément à ces femmes disciples que Jésus a confié cette mission. Et savez-vous comment on appelle une personne que Jésus envoie pour proclamer une bonne nouvelle? Eh bien oui, ça s'appelle un ou une apôtre. Et voilà encore une révolution de la part de Jésus. Des femmes témoins, des femmes apôtres, à une époque où le témoignage d'une femme ne valait rien. Sauf pour Jésus, évidemment. Pour Jésus, ce témoignage, il vaut tout. Pour la communauté de Jésus, qui était censée vivre son exemple et ses principes du royaume de Dieu, ce témoignage aurait dû valoir tout aussi. Qu'en pensez-vous ? Jésus et les principes de son royaume ont-ils prévalu sur les principes socioculturels et religieux de son temps ? Une chose est sûre, en tout cas, les évangiles nous disent que les hommes n'ont pas pris au sérieux le témoignage de ces femmes, témoignage qu'ils ont pris pour des radotages et un délire. Une autre chose est sûre aussi, ces premières apôtres de la résurrection sont rapidement tombés dans l'oubli, malgré le témoignage des quatre évangiles canoniques. Déjà dans les actes des apôtres, qui sont en réalité les actes de Pierre et surtout de Paul, plus aucune trace du rôle que Jésus leur a confié. Et Paul, quant à lui, il réduit carrément ces femmes témoins, ces premières apôtres, au silence et à l'inexistence. Première épître de Paul aux Corinthiens, au chapitre 15, versets 3 à 6. Le Christ est mort. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le troisième jour, selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, c'est-à-dire Pierre, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est apparu à moi aussi, comme à un avorton. Évaporez nos fidèles porteuses de bonnes nouvelles, comme si elles n'avaient jamais existé. Pourtant, nous aurions pu espérer que la propre attitude de Jésus et que son enseignement se prolonge et se développe au sein de sa propre communauté, l'Église. Mais ce ne fut pas le cas. Sa révolution ne lui a pas survécu. Ceux et celles qui ont cherché à la perpétuer ont rapidement été écartés de l'Église officielle. Que de vocations féminines sacrifiées sur l'autel du machisme. Et puis, parmi toutes ces femmes, disciples, Il en est une qui occupe une place particulière. Les synoptiques la citent toujours en premier dans le groupe des femmes, ce qui témoigne de l'importance qu'elle avait. Mais c'est l'évangile de Jean qui la met le plus en évidence. Cette femme, c'est Marie de Magdala. De toutes les figures féminines, et Dieu sait combien ces figures sont inspirantes, Marie de Magdala est assurément ma dame de cœur. Marie, Myriam en hébreu. Marie était un prénom courant au temps de Jésus. Il y a plusieurs Maries d'ailleurs dans les évangiles, plusieurs Maries qui jouent un rôle majeur dans la vie de Jésus. Sa mère, Marie de Béthanie, la sœur de Marthe et de Lazare, et puis Marie de Magdala. Magdala était le lieu dont elle était originaire, un petit village situé au sud-ouest du lac de Galilée. Alors je vous invite à rejoindre Madame de Cœur dans l'une des pages d'évangile les plus touchantes et les plus émouvantes qui soient. Dans l'évangile selon Jean, évidemment, au chapitre 20, et nous lirons ensemble les versets 1 à 18. Je situe d'abord la scène. Le vendredi, Jésus a été crucifié. Il est mort et sa dépouille a été mise dans un tombeau neuf qui se trouve dans un jardin. Tout cela s'est passé sous les yeux de Marie. Le sabbat se passe et nous retrouvons Marie à l'aube du dimanche. Endeuillée, elle vient se recueillir sur la tombe de Jésus. Et elle est à mille lieues d'imaginer ce qu'elle va découvrir. Alors, je vous invite à entrer dans la scène et à essayer de vous mettre dans la peau et à la place de Marie. Jean 20, versets 1 à 18. Le premier jour de la semaine, à l'aube, alors qu'il faisait encore sombre, Marie de Magdala se rend au tombeau et voit que la pierre a été enlevée du tombeau. Elle court, rejoint Simon-Pierre et l'autre disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit « On a enlevé du tombeau le Seigneur et nous ne savons pas où on l'a mis. » Alors Pierre sortit, ainsi que l'autre disciple, et ils allèrent au tombeau. Ils couraient tous les deux ensemble, mais l'autre disciple courut plus vite que Pierre et arriva le premier au tombeau. Il se penche et voit les bandelettes qui étaient posées là. Toutefois, il n'entra pas. Arrive à son tour Simon-Pierre qui le suivait. Il entre dans le tombeau et considère les bandelettes posées là et le linge qui avait recouvert la tête. Celui-ci n'avait pas été déposé avec les bandelettes, mais il était roulé à part, dans un autre endroit. C'est alors que l'autre disciple, celui qui était arrivé le premier, entra à son tour dans le tombeau. Il vit et il crut. En effet, il n'avait pas encore compris l'écriture selon laquelle Jésus devait se relever d'entre les morts. Après quoi, les disciples s'en retournèrent chez eux. Marie était restée dehors, près du tombeau, et elle pleurait. Tout en pleurant, elle se penche vers le tombeau, et elle voit deux anges vêtus de blanc, assis à l'endroit même où le corps de Jésus avait été déposé, l'un à la tête et l'autre aux pieds. « Femme, lui dirent-ils, pourquoi pleures-tu ? » Elle leur répondit, « On a enlevé mon Seigneur et je ne sais où on l'a mis. » Tout en parlant, elle se retourne et elle voit Jésus qui se tenait là, mais elle ne savait pas que c'était lui. Jésus lui dit, « Femme, pourquoi pleures-tu ? Qui cherches-tu ? » Mais elle, croyant qu'elle avait affaire au jardinier, lui dit, « Seigneur, si c'est toi qui l'as enlevé, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le prendre. » Jésus lui dit, « Marie. » Elle se retourna et lui dit en hébreu, « Rabouni. » Ce qui signifie « maître ». Jésus lui dit, « Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père. Pour toi, va trouver mes frères et dis-leur que je monte vers mon Père, qui est votre Père, vers mon Dieu, qui est votre Dieu. » Marie de Magdala vint donc annoncer aux disciples : « J'ai vu le Seigneur, et voilà ce qu'il m'a dit. » Nous n'avons pas le temps de partager nos impressions, mais j'espère que cette scène ne vous a pas laissé de marbre, que vous avez pu ressentir l'intense émotion qui l'habite. Et si nous lisions cette scène en surimpression d'une autre scène qui lui sert clairement de toile de fond? Les motifs sont les mêmes. Un jardin, une quête amoureuse et un dialogue entre une aimée et un aimé qui se perdent, se cherchent et se retrouvent. Vous aurez peut-être reconnu le texte qui a été lu en introduction et qui est extrait du Cantique des Cantiques. Relisons ensemble ce texte. Sur mon lit, pendant les nuits, j'ai cherché celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Je vais me lever et je ferai le tour de la ville, dans les rues et sur les places. Je chercherai celui que mon cœur aime. Je l'ai cherché et je ne l'ai pas trouvé. Les gardes qui font le tour de la ville m'ont trouvé. Avez-vous vu celui que mon cœur aime? À peine les avais-je dépassés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et ne le lâcherai plus. La quête de Marie fait clairement écho à la quête de la femme du Cantique des Cantiques. Comme elle, Marie cherche passionnément celui que son cœur aime. Elle le cherche sans relâche, et dès qu'elle le trouve enfin, elle le saisit et ne le lâche plus. Alors cette quête de Marie, eh bien, elle m'inspire et elle m'interpelle. Et j'espère que vous aussi. Comment concevons-nous notre propre relation avec Jésus? Quel est notre attachement à lui? Est-il celui que notre cœur aime? Et nous, est-ce que nous nous sentons, est-ce que nous nous savons aimer de lui? Et quel amour, mes amis! Un amour qui transcende et qui sublime la vie. Un amour réciproque qui donne sens à leurs deux vies, tant à celle de Marie qu'à celle de Jésus. Car c'est pour un tel amour que Jésus est venu. C'est un tel amour qu'il donne et qu'il veut susciter et recevoir en retour. Marie incarne cet amour. Reprenons la scène. C'est à l'aube du premier jour de la semaine, alors qu'il fait encore sombre, que Marie se rend au tombeau. Autant d'indices chronologiques, symbolique, qui suggère qu'un temps nouveau commence, qu'une aube nouvelle se lève. Oui, mais pour Marie, pour l'instant, il fait encore bien sombre. On peut même dire qu'elle est dans l'obscurité la plus totale. Elle ne voit qu'une seule chose. La pierre a été enlevée du tombeau et le corps de Jésus a disparu. À vue humaine, cela ne peut signifier qu'une seule chose. Quelqu'un a pris le corps de Jésus. Et dès lors, vous l'aurez remarqué, la scène est inondée par les larmes de Marie, son amour désespéré, son chagrin, son désarroi. Comment faire son deuil si elle ne peut même pas pleurer sur la dépouille de son bien-aimé? Marie ne veut plus qu'une seule chose, qu'on lui rende ce corps, le corps de celui qu'elle a profondément aimé, et que la mort lui a enlevé. Ce corps, même s'il s'agit d'une dépouille, eh bien, il est vital pour Marie, car Marie avait trouvé en Jésus son point d'ancrage, le sens de sa vie. Et Marie de pleurer encore et encore, toutes les larmes de son corps. Et à ce stade du récit, eh bien, Marie nous renvoie à nos propres deuils, et nous ne pouvons que compatir et pleurer avec elle. Mais progressivement, le lieu de l'absence va devenir un lieu de révélation, un lieu de présence. Pourquoi pleures-tu? Quelle question! Marie n'a-t-elle pas de bonnes raisons de pleurer? Jésus, son bien-aimé, est mort dans des circonstances terribles. Avec lui, tous leurs rêves et tous leurs espoirs se sont envolés. Que va-t-elle devenir sans lui? Elle sait bien ce qu'était sa vie avant lui. Que va-t-elle devenir? Et si en plus, elle ne peut même pas pleurer sur sa dépouille? Pourtant, cette question lui est posée deux fois. Pourquoi pleures-tu? Alors que Pierre et l'autre disciple sont rentrés chez eux, en plantant là Marie avec son chagrin, d'autres s'intéressent à Marie. Ils compatissent, ils prennent soin d'elle. D'abord, ces deux anges, des messagers divins. Remarquez d'ailleurs qu'elle est la seule à les voir. Pierre et l'autre disciple n'ont rien vu. Ces messagers sont là pour elle, pour Marie. Mais elle ne comprend ni leur présence, ni leur message. Ensuite, Jésus lui-même, qu'elle prend d'ailleurs pour le jardinier. Pourquoi ne le reconnaît-elle pas? Pourquoi le prendre pour un jardinier? Logique, me direz-vous peut-être, on est dans un jardin. Oui, mais vous savez que Jean joue avec les doubles sens, les quiproquos, le symbole, les malentendus. Alors, ce jardinier, il a forcément un sens figuré. Il renvoie forcément à autre chose. Peut-être bien au jardin de la création et au Dieu jardinier, qui suggère aussi que quelque chose de nouveau est en train de se créer ici, comme le suggérait déjà l'aube du premier jour. Et voici que dans ce jardin-ci, ce jardinier-ci va prendre soin de cette femme, ce qui suggère aussi que Marie est une figure de l'humanité croyante. Jésus, jardinier du monde qui nous ensemence de graines de vie véritables, de vie éternelle. Mais Jésus qui va aussi toucher Marie au plus intime de son être, ce qu'on appelle notre jardin secret. Décidément, ce jardin et ce jardinier sont riches en symboles. Qui cherches-tu? Qui cherches-tu, Marie? Celui que mon cœur aime, évidemment. Oui, mais Marie cherche un cadavre. Alors comment reconnaîtrait-elle un vivant auquel elle ne doit prêter qu'un regard furtif rempli de larmes? Jésus lui dit alors, Marie. Jésus n'a qu'à l'appeler par son nom à elle, pour que Marie le reconnaisse enfin. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en moi, ça rappelle le discours de Jésus sur le bon berger, un peu plus haut dans l'évangile de Jean, où Jésus dit qu'il est le bon berger, qu'il appelle ses brebis par leur nom et qu'il prend soin d'elles par amour pour elles. Et ses brebis connaissent sa voix et suivent le bon berger parce qu'elles savent que c'est lui et aucun autre, le bon berger. Et Marie se retourne et lui dit « Rabouni ». Et le texte nous dit que cela signifie « maître ». En grec, la langue de l'évangile, « didaskalos », effectivement, un maître, quelqu'un qui enseigne. Sauf que « rabouni », en hébreu, ou plutôt même en araméen, la langue que Jésus et Marie parlaient, eh bien, Rabouni, c'est un diminutif, tout en intimité, en tendresse, en affection. On traduirait plutôt par « mon maître chéri »,« mon maître bien-aimé ». Alors, moi, j'ai une frustration, bien souvent, en lisant la Bible, c'est qu'on n'a pas l'image ni le son. On n'entend pas les voix, on ne voit pas les expressions, ni les intonations. Mais en tout cas, une chose est sûre, on ne peut pas s'y tromper. Ces deux noms dont il s'appelle, eh bien, ces noms sont inondés d'amour. Ils concentrent toute leur histoire commune, tout ce qu'ils représentent l'un pour l'autre. La relation d'amour unique qu'ils ont tissée et qui les unit à jamais. Et ça, c'est capital, c'est même vital, je dirais. La foi chrétienne, c'est une relation d'amour entre Jésus et chacune et chacun de nous. Relation unique pour chacun et chacune de nous. La foi chrétienne est une histoire d'amour. Sans cela, que serait le christianisme. Et vous l'aurez peut-être noté aussi, dans le texte qu'on a lu, Marie se retourne deux fois, verset 14 et verset 16. Deux retournements, autrement dit, une révolution sur soi-même. Et c'est un symbole de ce que Marie est en train de vivre ici. Marie est en train de vivre une véritable révolution. Ne me retiens pas. Cette parole de Jésus a fait couler beaucoup d'encre. Alors certains traduisent par « ne me touche pas ». Mais le verbe grec « aptomai » insiste sur le fait de retenir, s'accrocher à, s'attacher à et ne pas laisser partir. Matthieu nous dit d'ailleurs que Marie a saisi les pieds de Jésus et qu'elle s'est prosternée devant lui. « Ne me retiens pas ». Mais dites-moi, Jésus n'aurait-il pas préféré lui aussi rester physiquement auprès de cette disciple qu'il aimait tant? Oui, mais elle et lui vont devoir entrer dans un nouveau type de relation. Une relation qui doit changer de plan, qui doit évoluer. Jésus disparaît au plan corporel, physique, mais il va demeurer au plan spirituel, intérieur. Changement aussi déchirant qu'inévitable. Oui, désormais Jésus vivra en elle. Et ce qui ne change pas, ce qui demeure pour toujours, c'est leur amour. Pour l'évangéliste Jean, Marie de Magdala est une figure d'amour, un archétype du disciple aimé aimant. Et Marie est aussi une figure de la communauté qui doit faire l'expérience de Jésus ressuscité dans sa propre vie. Marie a aimé Jésus sans restriction. Elle a été capable de continuer à l'aimer et de croire en lui malgré les événements de la croix. Sa fidélité, son amour lui ont valu le choix de Jésus de faire d'elle la première annonciatrice de la résurrection. Marie est une pionnière. Première à voir le tombeau vide, première à voir et rencontrer Jésus ressuscité, première apôtre de la résurrection. Marie réunit d'ailleurs toutes les conditions pour être appelée apôtre. Elle a suivi Jésus depuis la Galilée, elle a été témoin de sa mort, de sa mise au tombeau, elle a été la première à le voir ressuscité, et elle a été envoyée par lui pour une mission de témoignage. Va et dis-leur. Marie est allée et elle leur a dit: Marie, étoile du matin, vigie d'une aube nouvelle et d'un monde nouveau, Marie entraîne tous les croyants avec elle, pour autant que nous l'accueillions, elle, son témoignage de vie et le message dont elle est porteuse. Hélas, Madame de Cœur a connu une bien triste histoire. Elle s'est vue engloutie dans une figure connue sous le nom de Marie-Madeleine. Comment est-on passé de l'une à l'autre? Par un jeu de traduction, évidemment. Magdala, en grec Magdalene, a été francisée et a donné Madeleine. La Magdalénienne est donc devenue la Madeleine. Mais surtout, par un tour de passe-passe d'un pape. Le pape Grégoire le Grand, à la fin du VIe siècle. Pour maintenir les gens sous sa coupe, l'Église du Moyen-Âge les charge de péchés, qu'elle est seule à pouvoir pardonner, évidemment. Grégoire crée donc un exemple de conversion et de repentir auquel ces foules vont pouvoir se rattacher et s'identifier. Mais il le fait sur le dos de notre apôtre. Il n'hésite pas à créer une figure composite en rapprochant trois femmes des évangiles pour n'en faire qu'une seule. Marie de Magdala, Marie de Béthanie, qui a oint Jésus, et aussi la pécheresse anonyme de l'évangile de Luc, qui elle aussi a oint Jésus. Et puisqu'à grand péché, grand pardon, cette pécheresse devient une prostituée adonnée au péché de la chair. Excite donc la Magdaléenne, c'est la Madeleine, pécheresse repentie et pardonnée, qui va s'imposer au fil des siècles. Et son portrait va encore être enrichi à coups de récits et de légendes autour de sa vie. Il faudra attendre le XVIe siècle et la Réforme pour que soit progressivement abandonnée cette figure composite et pour que chacune des trois femmes soit enfin rendue à elle-même. Malgré tout, la Madeleine s'est installée dans l'inconscient collectif. Et je suis sûre que si on avait fait un sondage avant cette méditation, en vous demandant qui était Marie-Madeleine pour vous, on aurait eu comme ça des tas de légendes qui se seraient imposées. La Madeleine s'est installée dans l'inconscient collectif. Et cette Marie-Madeleine est représentée non plus pleurant sur le tombeau vide, mais pleurant sur ses propres péchés, en particulier charnels, ce dont aucun évangile n'a jamais parlé. Car en ce qui concerne Marie de Magdala, quand il est dit que Jésus a chassé d'elle sept démons, eh bien c'est pour indiquer qu'elle a été libérée, guérie d'une grave situation de maladie et de souffrance, et non de péché. Pourtant, que n'ai-je lu et que n'a-t-on fantasmé sur ces démons de Marie ? Dans la Bible, on évoque des démons quand on est incapable d'expliquer l'origine d'un mal. Les démons étaient responsables de nombreux troubles que l'on considérait comme des possessions démoniaques. Heureusement, nous savons aujourd'hui que ce n'est pas le cas. Et par ailleurs, toute maladie était aussi considérée comme un châtiment divin pour cause de péché. Ça aussi, on sait que ce n'est pas le cas. Jésus lui-même, d'ailleurs, s'est insurgé contre une telle compréhension. Le chiffre 7 indiquant la plénitude, nous comprenons donc que ces sept démons représentent tout ce qui peut aliéner, tout ce qui peut emprisonner l'être humain. Mais la chose la plus importante à retenir, c'est que sa rencontre avec Jésus a signifié pour Marie la libération, la renaissance, la possibilité d'une vie nouvelle, une vie pleine de sens qui vaut la peine d'être vécue. Oui, Jésus est bien celui qui a libéré Marie de sa tour, car le sens de Magdala, c'est tour. Magdala, c'est son village, mais cela signifie également tour. Que de gens enfermés dans des tours dans notre monde. Et d'ailleurs, l'Église s'est empressée de construire une nouvelle tour autour de Marie, dont il semble bien difficile de la libérer. Alors s'il est vrai qu'elle a bénéficié en Orient du titre d'égale des apôtres et en Occident de celui d'apôtre des apôtres, eh bien dans les faits, ces titres honorifiques n'ont pas été suivis d'effets concrets. Le christianisme est bien loin d'avoir pris au sérieux celui dont il se réclame pourtant, le Christ, Jésus. Alors pour conclure, et pardonnez-moi mon hérésie, j'aimerais laisser la parole à Marie, à travers son évangile. L'évangile de Marie. Un évangile sinon écrit, du moins inspiré par Marie de Magdala, et qui porte donc son nom, comme c'était la coutume autrefois. Dans cet évangile, classé parmi les apocryphes, Marie présente Jésus d'une très belle et d'une très inspirante manière. Il est appelé l'enseigneur. Oui, le Seigneur, certes, mais aussi l'enseigneur, celui qui nous enseigne. Un enseigneur dont l'enseignement a pour but de rendre libre l'être humain dans toutes ses dimensions et de lui permettre de devenir un. Ça ne vous rappelle rien ? Vous serez un comme je suis un avec le Père. Devenir un, c'est-à-dire être réconcilié, pacifié, unifié. Son évangile nous invite à nous rendre libres à l'égard de toute nos dualités qui nous diabolisent. Marie n'est-elle pas la mieux placée pour transmettre ce message, elle qui a été libérée par Jésus de tous ses démons ? Marie nous dit encore que c'est à l'intérieur de nous que nous devons chercher et trouver l'Enseigneur, lui qui est le bien incarné parmi nous, lui qui nous appelle à devenir pleinement humains. Et je cite son évangile, « Laissons-le prendre racine en nous et croître en nous comme il l'a demandé. » Mais n'est-ce pas à cette nouvelle relation spirituelle intérieure que Jésus a invité Marie, et n'est-ce pas à cette relation qu'il nous invite aussi, nous, chacune et chacun? Alors oui, laissons Jésus, notre enseigneur, prendre racine en nous. Laissons-le croître en nous, ce Jésus, défenseur de l'égalité et de la dignité humaine, ardent défenseur des droits des femmes. Laissons-le croître, ce Jésus révolutionnaire, subversif et libérateur. Amen.